Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 juillet 2026 et vous écoutez Méditons ensemble avec le révérend Jean-Claude Coffi. Aujourd'hui, nous atteignons la 18e partie de notre méditation intitulée « Réveille-toi, toi qui dors ». Nous aurons 6 textes de référence en ouverture de notre méditation. Nous commençons par Éphésiens 5, verset 14, où il est écrit « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Galates 5, verset 7 à 9, il est écrit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté ?» pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Matthieu 26, versets 40 à 43, nous lisons « Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et il pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Apocalypse 3, verset 20, il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Ésaïe 55, verset 1, il est écrit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Enfin, Philippiens 4, 13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie, je puis tout par celui qui me fortifie. » Les voies de sortie de la torpeur spirituelle sont multiples et variées. Mais en tout état de cause, ces voies de sortie doivent cibler l'ordre des choses à l'origine du déclin de la vie spirituelle. Tels les médicaments que le médecin prescrit pour traiter une pathologie précise, les voies de sortie doivent être analysées selon les causes ou les origines de la dégénérescence spirituelle. La toute première voie de sortie ou voie de retour au réveil spirituel n'est ni la discipline ni la sanctification, mais la repentance. Elle est la première étape dans le processus du retour à la restauration. La repentance est la solution que le Seigneur avait recommandée à l'église d'Éphèse. Lisons Apocalypse 2, 5. Il est écrit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » La repentance exige que l'on change la façon de voir les choses, que l'on renonce à son état d'esprit qui a fait le lit du péché, que l'on change de mentalité, que l'on revienne de ses mauvaises voies en les rejetant pour se tourner vers Dieu. La repentance véritable commence par un profond regret, un cœur abattu, des remords qui créent un bouleversement, voire un brisement de l'âme. La repentance ne doit pas être superficielle ni partielle. Elle doit être profonde et entière. Elle doit prendre en compte les étapes qui ont conduit à la chute. Le disciple repentant doit faire un inventaire rigoureux des pas successifs et subtils qui l'ont conduit au désastre spirituel. La plus belle illustration, l'exemple type de repentance telle qu'elle doit se pratiquer pour aboutir au relèvement spirituel, au relèvement d'entre les morts, nous l'avons dans le chemin emprunté par le fils prodigue pour retrouver la communion avec son père. Lisons Luc 15, versets 10 à 24. Il est écrit « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Il dit encore « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Luc 15, 10 à 24. Le fils prodigue a coché toutes les cases que doit cocher tout disciple repentant. Mais avant de relever les détails qui font de la repentance un modèle à suivre, il convient que nous notions ce qui avait causé sa mort spirituelle. Il était porté sur ce qu'il pouvait tirer du Père et non sur ce qu'il pouvait faire pour plaire au Père. Il voulait son indépendance. Il concevait sa relation avec son père en termes de gain et d'intérêt. Cela se voit dans sa démarche et sa formalisation. Il abusa de l'amour de son père. Il avait choisi l'éloignement pour mieux vivre son indépendance. Il voulait une liberté qui n'avait pas de limite dans son vouloir. Il ne voulait être soumis à aucune hiérarchie, il voulait une liberté sans bornes. C'est tout cela qui avait fait basculer sa vie jusqu'à ce qu'il se retrouvât dans une misère sans nom. Maintenant que nous avons une idée de ce qui a causé sa chute, voyons comment il prit le chemin de la restauration. Il constata sa misère, il en prit profondément conscience. Il rentra en lui-même, il se soumit à une sorte d'introspection positive, laquelle est nécessaire, voire incontournable dans toute vraie démarche de repentance. Il était profondément accablé par sa décision et les effets qui en découlèrent. Il joignit l'acte à la parole pour faire le chemin retour. C'est l'essence même de la repentance. À partir de là où il était, afin de s'humilier devant son père. Heureusement, son père l'attendait souffrant qu'il était de voir son fils éloigné de lui. Il avait avoué son péché. Cette étape est très importante dans le processus qui aboutit à la repentance. Cette étape est, elle aussi, très importante dans le processus qui aboutit à la repentance. Il avait reconnu son indignité et ne s'attendait pas à être honoré de quelque manière que ce soit. En considérant tout ce que nous venons de relever plus haut, on réalise que la repentance du fils prodigue était sincère, profonde et entière. Et comme il fallait s'y attendre, le père le reçut avec joie. Il fut réadmis dans la communion et l'intimité de son père. C'est exactement ce qui arrive aux disciples qui, se reconnaissant spirituellement morts, s'humilient, prient et cherchent la face du Père Céleste. En pratique, la repentance est le point de départ du relèvement spirituel, mais elle doit être authentique, elle doit être profonde, elle doit être entière. Demain, nous traiterons de la place et du rôle de la discipline dans la détermination et la croissance dans le processus du renouvellement spirituel. À retenir, dans notre quête de réveil, en plus des dispositions mentales, nous devons absolument emprunter le chemin de la repentance. Sans une vraie et authentique repentance, tout rêve de réveil ne sera qu'illusion. Pour pouvoir ouvrir l'accès au réveil spirituel et réintroduire le disciple dans l'intimité avec le Père Céleste, la repentance doit être sincère, profonde et entière. Puisse le Saint-Esprit accorder à chacun un cœur profondément repentant et que cela nous prépare à renouer de façon plus fluide et dynamique avec la communion et l'intimité avec le Père. Car nous sommes destinés à faire des exploits avec Dieu. Selon Psaume 60, verset 14. Excellente et bénissante journée en Christ, votre serviteur, le docteur Jean-Claude Coffi, ce jeudi 2 juillet 2026.